Pierre-Étienne Joie.
Une gigantesque avalanche de glace, de boue et d'éboulis a enseveli une grande partie du village de Blatten dans le Lütjental valaisan. Le glacier du Birch a cédé cet après-midi. De nombreuses maisons ont été détruites, aucune victime n'est à déplorer. La situation est en cours d'évaluation afin de connaître les dégâts, notamment sur les habitations et la rivière Lonza. Une augmentation significative de l'activité du glacier s'était amplifiée durant la journée. En début d'après-midi, le barrage par avalanche a fini par laisser passer une partie des gravats. Israël a tué Mohamed Sinwar, considéré comme le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza. Le premier ministre Benjamin Netanyahou l'affirme en tout cas. Une frappe il y a 15 jours à Khan Younes a visé le frère de Yahya Sinwar, ex-chef suprême du Hamas tué par l'armée israélienne en octobre 2024. Mohamed Sinwar dirigeait la branche armée du Hamas, les brigades Al-Qassam, considérées au même titre que leur mouvement politique comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne notamment. Le Kremlin écarte la proposition du président ukrainien Volodymyr Zelensky d'un sommet trilatéral avec ses homologues Vladimir Poutine et Donald Trump pour faire avancer les discussions de paix en Ukraine. Une telle rencontre doit être le résultat d'accords concrets entre les deux délégations russes et ukrainiennes, a tranché Moscou. Le président russe avait déjà ignoré l'invitation de Zelensky à le rencontrer en Turquie à la mi-mai. La Suisse doit renforcer ses liens économiques avec les États-Unis et trouver une solution aux droits de douane imposés par Washington. Le Conseil fédéral a approuvé le projet d'un mandat de négociation avec les États-Unis. Une consultation est ouverte. Depuis le 2 avril, de nombreuses exportations suisses à destination des États-Unis sont frappées jusqu'à nouvel ordre d'un droit de douane additionnel forfaitaire de 10%, voire de 25% pour les produits en acier et en aluminium, ainsi que les voitures et les pièces détachées. Des soupçons d'irrégularité dans les bulletins confirmés dans la commune genevoise de Vernier. Le sort du conseil municipal est entre les mains de la Cour de justice de Genève. Le ministère public lui a transmis un rapport qui confirme ses soupçons lors du scrutin électoral du 23 mars dernier. Cette affaire est grave, il est important de faire toute la lumière, a souligné la chancelière d'État. Le CHUV présente un résultat positif de 4,5 millions de francs. Le centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne a donc bouclé son exercice 2024 sur un bon résultat. Il n'a pas eu besoin de recourir aux réserves ni à la dissolution de provisions. Le Conseil d'État a approuvé ses comptes. Le plan Impulsion a permis d'améliorer les résultats à hauteur de 11 millions. Tennis, ce n'est pas cette année que Victoria Golubic disputera pour la première fois les 16e de finale de Roland-Garros. La Zurichoise de 32 ans s'est inclinée au deuxième tour. Là, en fin de matinée, la vice-championne olympique 2021 de double a été lourdement battue en 2-7, 6-0, 6-2 par l'américaine Amanda Anisimova. La météo, encore des précipitations dans les Préalpes et en Valais jusqu'en fin de soirée. Le ciel va progressivement se dégager durant la deuxième partie de la nuit. Jeudi, demain, bien ensoleillé malgré quelques voiles de nuages élevés. En pleine, minimum 12 le matin, maximum 23 ensuite. Faible vent d'ouest sur le nord du plateau, sinon des brises thermiques en pleine. Et vendredi, temps ensoleillé avec de rares cumulus l'après-midi en montagne. En pleine, 11 degrés le matin, maximum 28 sur le plateau, jusqu'à 30 en Valais.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
Du 30 août au 14 septembre, le Valais devient le terrain de jeu des meilleurs VTTistes de la planète. Les championnats du monde Mountain Bike UCI 2025 prennent place dans 8 destinations valaisannes. Adrénaline, vitesse, parcours spectaculaire et ambiance survoltée. Venez vivre l'euphorie au cœur de l'action. Plus d'informations sur valais2025.ch. Retrouvez l'événement en direct sur RTS2 et sur l'application PlayRTS.
Vertigo, Pierre-Philippe Cader.
Avec Rodolphe Beauchamp en régie, bienvenue à vous.
Vertigo.
Que lui reste-t-il de son gymnase sport-études? Entre le foot et le piano, il a finalement choisi, malgré un titre de champion suisse des moins de 19 ans, conquis avec Yverdon. Yverdon Sport, le voici depuis ses 25 ans, il en a 38 à peu près aujourd'hui, je crois, derrière un piano. On se souvient de ses adaptations du folklore fribourgeois sur son disque Identita. Il le jouera à nouveau dans le cadre du festival Jazz Contrebande, festival transfrontalier. Ce sera le 7 juin, c'est à la médiathèque de Saint-Sergue et c'est à 11h, non pas 23h, mais bien 11h, de 11h à midi. Florian Favre est notre invité aujourd'hui. Et puis il y aura également un débat cinéma post-Cannes, c'est-à-dire post-apocalypse, puisqu'il n'y aura que deux films au menu dans les sorties de la semaine, The Phoenician Scheme, je ne sais pas comment on prononce ça, de Wes Anderson. Raphaël Wolf nous dira comment on prononce ça de façon parfaite. Et puis The Landscape and the Fury, un documentaire suisse de Nicole Feugele. Et puis des conseils de nos critiques, Thomas Gerber et Raphaël Wolf, My Own Private Idaho de Gus Van Sant et Oslo 31 août de Joachim Trier. Bienvenue à vous.
17h, 18h, c'est Vertigo.
Et bienvenue à vous, Florian Favre, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Merci, on vous écoute, tenez. Le jeu est pas mal pour un footballeur.
Merci.
J'ai jamais vu résister.
Blague à part, j'ai eu une espèce d'image comme ça cet après-midi en réfléchissant à cette émission avec vous, Florian Favre. On sait qu'aujourd'hui, dans les vestiaires des footballeurs, on met pas mal de musique pour s'ambiancer, pour faire monter la tension, la pression, pour arriver très très chaud sur le terrain. Et je vous imaginais arriver à Yverdon Sport avec une enceinte et dire « Ah les gars, j'ai trouvé un petit art tatoum de derrière les fagots, vous m'en direz des nouvelles ?» Et on voyait comme ça un piano solo dans un vestiaire de footballeur qui écoute normalement toute autre musique, non?
J'ai pas fait ça, c'est fait, j'ai pas amené. Je faisais le jazz et Bill Evans et tout ça. Ça restait un peu pour moi et avec d'autres amis, mais le foot, c'était plutôt du hip-hop, beaucoup.
Ouais.
De la musique assez dansante, et l'électro. Je me souviens écouter des trucs vraiment horribles maintenant avec le recul. Mais je pense que toute musique a une fonction bien précise.
Exactement. Et on a tous nos mauvais goûts.
Voilà. Hein? Et ça fait du bien de les
assumer. On assume un peu de temps en temps. Voilà, exactement. Blague à part, qu'est-ce que le sport à haut niveau que vous avez pratiqué a apporté aux musiciens que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous reste de ce parcours de footballeur chez le pianiste que vous êtes aujourd'hui?
Alors, je pense que je vais pas vous étonner en disant que c'est la discipline un petit
évidemment,
peu.
Ouais.
Le fait de, je me souviens de faire des tours de course et d'être à deux doigts de rendre ou de vomir pour être plus clair. En fait, ce moment-là où on va franchir un peu la limite, c'est aussi un moment qui peut être plein d'apprendre. Enfin, on peut apprendre plein de choses de ce moment-là aussi en musique. C'est-à-dire que le moment où je dis « Ah non, je vais arrêter, je vais pas bosser », et puis tout d'un coup « Non, allez, je bosse un peu », tout d'un coup, il se passe un truc. Je sais pas où, mais on découvre un autre endroit, on va dans d'autres sphères et puis on apprend plein de choses. Donc, je pense que ce jeu avec la limite, il est intéressant, il peut être néfaste, mais il est aussi plein d'enseignements.
C'est un peu comme le mur des 40 km au marathon. Une fois qu'on l'a franchi, on rentre dans une autre dimension, on est un peu dans l'espace comme ça. Enfin, on atteint quelque chose d'autre.
C'est ça. Par exemple, si on travaille sur un motif qu'on déroule pendant en transe pendant 20 minutes, tout d'un coup, ce qui se passe après 10 minutes, ça nous emmène dans d'autres choses. Donc, on travaille la stamina un petit peu.
Ouais, exactement. Alors, dans votre famille, votre père était musicien.
Il est toujours.
Il est toujours. Ouais. Très bien. Vous avez donc été imprégné de musique depuis toujours. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, alors même que vous êtes vraiment dans le jazz avec un trio, tout à coup, vous vous intéressez au folklore de chez vous, de Fribourg, et vous le réinterprétez à votre sauce? Qu'est-ce qui a été le déclic, alors qu'on sait bien qu'a priori, la musique folklorique, quand on a un certain âge, disons, c'est pas tout à fait ce qu'on peut apprécier ou écouter.
Alors, il y a eu deux choses. Je pense qu'il y a eu le Covid. En fait, on s'est retrouvé. Il a créé plein de choses. Oui. Ce moment difficile, quand même, chez les artistes, je crois, soulevé plein de questions. Et moi, j'étais un peu ce truc-là. J'étais confronté à cette situation. Ben, je suis seul. Je ne peux plus jouer de concert. Mais je suis quoi au fond? Je sais quoi qui me définit? C'est quoi mon identité? Et du coup, j'ai repensé à ça. Puis j'ai dit, mais en fait, je l'aime pas trop, mais il faut que j'aille me confronter à cette identité, parce que dans ma famille, ça chantait tous ces chants folkloriques fribourgeois. Et je me suis dit, ben, je vais essayer de triturer ce matériel pour le faire aimer, parce qu'au fond, que je le veuille ou non, c'est une partie de moi. Et du coup, je dois en faire quelque chose.
Donc vous avez plongé dans les ouvrages de l'abbé Beauvais, vous avez parcouru les partitions, vous les avez triturées dans tous les sens. Pour arriver à quoi en fait? Quel genre de musique?
Ah, quand les gens me demandent ça, je ne sais pas trop comment répondre, mais je dirais qu'il y a un mélange entre de musique classique, un peu de musique pop, un peu de jazz, un peu de moments dansants. Je dirais que c'est entre ces trois styles que ça joue, avec un piano qui est des fois joué normalement, des fois complètement préparé, c'est-à-dire que je rajoute des choses dans l'instrument pour faire un peu changer le son, pour faire des trucs plus rythmiques, voilà.
Ouais. Alors ça donne ceci, écoutez. C'est un enregistrement maison, c'était en 2022 avec Yvan Hichère dans l'émission de jazz, et c'est vous qu'on écoute, The Zodze. The Dodze, c'est vous que l'on écoute. Florian Favre, un enregistrement maison. C'était chez Yvan Hichère dans l'émission de jazz en 2022. En avril 2022, pour être plus précis. On parlait de cela pendant qu'on vous écoutait aussi. Il y a toujours un petit côté nostalgique dans ce folklore fribourgeois. Comment vous l'expliquez, ça?
Je pense que c'était une époque où les gens avaient besoin de développer un sentiment d'appartenance à une région, de valorisation de ce patrimoine-là. Et du coup, la verte gruyère, les montagnes, le truc un peu idyllique quand on écoute
postale.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, je pense que ça faisait partie de cette envie d'appartenance et d'identité.
Ouais. On a entendu certaines vibrations lorsque vous jouez. Là, c'est un piano préparé. Mm-hmm. Préparé de quelle manière?
Alors là, spécifiquement, il y a deux choses. Je prends une sorte de gomme que je coupe et que je mets à la dernière corde du piano tout à gauche, ce qui fait que la corde grave, exactement. Et du coup, ça me permet d'imiter une grosse caisse, un peu. Hein. On n'est pas dans la batterie, mais ça vient.
Ça fait poum.
Ouais, ça fait poum. Ça, c'est la première. Ça me permet d'avoir un forte ou deux flores ou quelque chose comme ça, si on parle en termes musical. Et la deuxième, c'est un dictionnaire d'espagnol auquel j'ai collé une boîte de trombone. Donc, qui fait que quand je le pose sur les cordes du bas, ça enlève toutes les résonances et ça crée un pfff. Comme une snare de batterie, quoi. Ouais. J'ai pas bien réussi à le faire, mais je crois qu'on l'a bien entendu.
La caisse claire lorsqu'on met le timbre.
Exactement, j'ai dit snare, j'ai des habitudes.
Je parie que vous dites Miles aussi lorsque vous dites Miles Davis, non?
Ouais, exactement, ouais, exactement.
Vous êtes ce genre-là.
Ouais, j'avoue. Je suis désolé.
Et puisqu'on en est aux précisions, j'ai dit Saint-Cergue tout à l'heure, alors à mon tour de faire amende honorable, c'est Saint-Cergue France donc, puisque
exactement.
C'est le festival transfrontalier dans lequel vous produirez à la médiathèque. C'est à 11h du matin, c'est le 7 juin. Jouer à 11h du matin, quand on joue du jazz, ça se passe comment?
On va juste pas dormir et on continue. Non, je veux pas perpétuer trop de clichés. Il y a les aubes musicales aussi qui font aussi du jazz. Je trouve que c'est toujours sympa de trouver déjà d'autres lieux, ce que fait les fêtes acoustiques transfrontalières, d'inviter des gens dans d'autres lieux. Le week-end passé, c'était sur le Salève. Ils ont amené un piano. C'était magnifique. Et puis, l'horaire aussi fait qu'on croise différentes personnes, différents types de personnes. Donc, c'est très intéressant. C'est intéressant d'aller se frotter à un autre public, de convier d'autres gens. En plus, moi, la bibliothèque, c'est un peu l'opportunité de raconter des histoires avec des notes. Et puis, j'aime bien ça.
Et puis, parfois, vous chantonnez ou vous rappez, ça vous arrive?
Oui, j'ai fait un projet qui s'appelait Néologie, dans lequel je me muais un peu en slammer pianiste et j'étais entouré de magnifiques musiciens auxquels je m'accrochais. J'ai fait ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça et je dois avouer que c'est quand même un instrument très compliqué, la voix. Mmh. Et c'était une belle expérience, mais je pense que... Ouais, ça demande beaucoup de travail. Mmh. Je me suis un peu lancé dans la gueule du loup. Je le fais des fois en live comme ça pour une demi-pièce.
Si vous le sentez sur le moment.
Voilà. Ouais. Je le fais, mais je n'assumerai pas de le faire plus, je pense. Ouais. Et puis, ou bien j'ai simplement appris à respecter ce travail et cet instrument qui est difficile.
Mmh. Florian Favre, si on revient à ce projet que vous jouerez, donc qui s'appelle Identita, qui se consacre au folklore fribourgeois, mais pas que, parce qu'il y a aussi des créations originales dans votre proposition. Ces chansons qui traversent le temps, ces mélodies, qu'est-ce qui fait leur force, selon vous?
Je pense qu'il y a une certaine forme de simplicité dans les mélodies de base qui fait qu'on peut tous se raccrocher. Si je prends un exemple, dans le Sacre du printemps de Stravinsky, il utilise aussi des mélodies du folklore. Et puis en fait, je pense que ce côté très complexe qu'il a réussi à faire, et je veux pas du tout me comparer à Stravinsky, mais c'est une inspiration énorme pour moi. Et je trouve que dans ces mélodies folkloriques, il y a un truc qui nous ramène à... Il y a une compréhension directe, quoi. Il n'y a pas de complexité. On peut le complexifier un peu par la suite, mais le matériel de base, il est très direct.
Il est très direct. C'est pour ça qu'on le retient et qu'il est gravé en nous.
C'est ça, exactement.
Stravinsky, pourquoi lui? Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez ce compositeur?
Moi, c'est justement il arrive à faire des choses très complexes avec des choses simples, et puis ça sonne. Enfin, ça sonne complexe, mais en même temps, on est dans l'animal. Des fois, si on écoute le Sac du printemps, c'est quelque chose de très animal qui sort. Et moi, ça me plaît beaucoup ce truc-là qui vient chercher un peu à l'intérieur, aux entrailles.
C'est le sportif en vous aussi qui parle, là, lorsqu'on parle du côté animal
Non, je crois pas. C'est l'humain. Mais peut-être, c'est le côté... vibration, des fois on a besoin de choses qui viennent nous choper ailleurs que dans la tête. Ça fait du bien, donc voilà.
Oui, parce que parfois le jazz aussi est un petit peu trop intellectuel, donc on fait abstraction, voire on veut abolir la mélodie, car la mélodie c'est l'ennemi. Ça a pu arriver, le free jazz aussi se battait, je sais pas si le mot est juste, mais bref, on cherchait d'autres voies, d'autres formes de création musicale, mais c'est pas votre cas, au contraire, vous allez dans la recherche de la mélodie.
Moi j'aime bien entourer la mélodie d'une, je le fais peut-être sur le vieux chalet, des chansons comme ça, d'une structure un peu groovy, dansante. Ouais. J'aime bien complexifier un peu, mais laisser quand même l'impression que c'est quelque chose de simple. J'aime bien ce jeu entre les deux, en fait, entre l'intellect et le cœur,
et le cœur,
les tripes.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris, justement, avec ce travail que vous avez fait sur le folklore fribourgeois, vous, en tant que pianiste, en tant que compositeur?
Moi, j'ai appris justement que le piano, c'est quelque chose qui sonne bien quand on le fait aussi des choses simples. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose, les cordes résonnent par sympathie, c'est l'expression qu'on dit. Du coup, quand on joue quelque chose de simple et ample, ça crée des dimensions incroyables. On n'a pas besoin des fois d'aller chercher midi à 14h pour faire sonner ce piano. Et du coup, c'est là que la musique classique m'inspire beaucoup, parce qu'elle arrive à faire sonner cet instrument d'une manière incroyable avec des choses simples.
Ouais. Qui écoutez-vous comme pianiste?
Alors, j'en écoute beaucoup, mais je vais dire Keith Jarrett, Brad Meldo. Je suis aussi très touché par Gonzalez.
Chili Gonzalez.
Chili Gonzalez, parce que je trouve, lui, il rappe aussi. Il y a vraiment un truc pop assumé et il joue super bien du piano. Je crois que c'était un des meilleurs concerts que j'ai jamais vu.
Ouais. Ouais. Carrément.
Ouais, j'ai vraiment été, j'ai dit, ouais, des fois, quand on vient du jazz, je sais pas, on se dit, ah, mais c'est pas, ou je sais pas, mais en fait, ce concert-là, c'était magnifique. Et il y a aussi plein de musiciens classiques et musiciennes classiques. Je vais citer Martha Argerich, qui a un côté punk au piano qui me plaît beaucoup, et puis elle est phénoménale.
Qu'est-ce qui fait le punk chez elle, justement? C'est la façon dont elle joue, la façon dont elle aborde les œuvres, son attitude générale vis-à-vis de, par rapport à ce milieu de la musique classique qui est quand même très empesé comme ça?
Ben, son attitude générale fait qu'elle aborde les pièces avec une sorte de légèreté, puis elle a pas peur d'y mettre du sien, d'y mettre du fuego, je dirais, puisque...
C'est l'Argentine en elle qui,
voilà,
qui met le feu à la pièce.
Exactement, j'ai l'impression qu'en fait elle y va, elle prend possession de la pièce, de l'œuvre qu'elle joue, en la respectant, mais en lui proposant une interprétation très personnelle.
Alors, vous n'êtes pas le premier pianiste à vous attaquer à de la pop ou à du folklore. Vous avez cité Brad Meldo, puis il y en a d'autres encore qui ont fait ce genre d'exercice-là, c'est-à-dire de prendre un air très très connu, de le jazzifier entre guillemets, enfin de vraiment de le travailler jusqu'à l'os pour essayer d'en sortir quelque chose qui fera qu'on va le reconnaître, mais qui sera évidemment totalement nouveau. Est-ce que c'est parce que les pianistes de jazz sont peut-être lassé de jouer des standards perpétuels et qu'on va chercher l'inspiration ailleurs, y compris chez ces gens qui font une musique binaire et frénétique parfois?
Ouais, tout à fait. Puis je pense que c'est dans l'air du temps, et c'est bienvenu. Enfin, ça fait maintenant longtemps que c'est dans l'air du temps, de mélanger les choses, d'aller créer des nouvelles matières en justement aller chercher peut-être là où on n'irait pas tout de suite. Et puis le jazz, c'est magnifique. La tradition afro-américaine est super intéressante, mais on a une vie et je trouve qu'il faut aller un peu, faut aller expérimenter un peu partout, quoi. En tout cas, moi, je suis d'avis que c'est pour ça que ça me plaît le travail de Brad Meldo, c'est parce qu'en fait, il va un peu chercher partout et je trouve ça très touchant.
Ouais, et il n'y a pas de condescendance sur les autres musiques.
Non. Non, en fait, il y a tout est musique. Moi, je me souviens de mon prof de piano à l'école, à la haute école de Bern, qui me disait music is music. Et puis je disais ouais, c'est un peu. Mais en fait, il y a tout là-dedans. En fait, puis il y en a qui disent il y a que de la bonne ou de la mauvaise musique. C'est j'aime tellement de choses différentes. C'est tout dépendant de plusieurs facteurs, la sincérité et puis la passion que les gens mettent dans ce qu'ils font. En fait.
Ouais. On va vous écouter dans l'une de vos compositions. C'est Don't Burn the Witch. Et vous nous expliquerez pourquoi, justement, après. Thank you. Burn the Witch, c'est l'une de vos compositions, Florian Favre. Là aussi, encore une fois, piano préparé.
Exactement.
Ce n'est pas inspiré d'un traditionnel fribourgeois.
Non.
Mais c'est en lien avec la sorcellerie, les sorcières que l'on jetait dans les fleuves pour voir si elles noyaient ou si elles flottaient, c'est ça?
Exactement. C'est aussi de manière un peu plus large. Moi, je viens d'un village et en fait, dès qu'on était un peu différent dans un village, c'est peut-être pas mon cas, mais je trouvais qu'il y avait très vite des préjugés et tout ça. C'était un peu. Et puis je m'étais imaginé en fait que la sorcière, elle casse tous ses préjugés en dansant sur cette musique. Donc je voulais quelque chose de simple et de joyeux. Et puis dans un deuxième temps, je trouvais que c'était aussi une façon de dire aux femmes que elles ont souvent été discriminées pour pas grand chose. Dès qu'elles étaient peut-être un peu différentes et tout ça, c'était un moyen de faire un modeste hommage, de leur dire que on les aime et qu'elles sont importantes et qu'elles sont, ouais, qu'on va pas les brûler et que on est avec elles.
Et puis, vous avez vos autres projets, votre trio à côté de ce travail que vous effectuez en piano solo. Mmh. Comment ça se passe quand on doit mener plusieurs projets de front comme ça? Enfin, comment le cerveau se divise-t-il entre ce que vous travaillez pour vous, pour le trio, et pour justement ce folklore fribourgeois? Comment est-ce que vous avez fonctionné?
Alors, pendant une certaine période, j'ai fait les deux en même temps, mais au bout d'un moment, j'ai vraiment décidé de faire des parenthèses, de dire maintenant c'est que ça. Il y a eu la version solo, là, qu'on entend. Il y a eu la version aussi revisitée du folklore fribourgeois avec toute une équipe de musiciens et musiciennes qui sont venus un peu rajouter leur folklore sur ce folklore-là. Et ça, c'était une parenthèse qui va bientôt se terminer. Elle va se terminer le 21 juin prochain à Vevey, dans le cadre des fêtes du Conservatoire de Montreux. Le trio, ben ça fait à peu près 10 ans qu'on existe et là je l'ai mis en parenthèse, mais on va revenir un peu en novembre en sortant un album live. Donc je pense que la parenthèse c'est pas mal parce que quand on s'occupe du booking, du management, des réseaux sociaux, de la composition, en fait ça c'est colossal.
Oui, on en a parlé justement hier dans cette émission de tout ce temps de travail des artistes qui n'est pas comptabilisé dans leur cachet final d'une certaine manière. Ça aussi vous le vivez. Vous les viviez, ces moments de précarité, de difficulté dans lesquels parfois on se dit qu'on voit pas le bout du tunnel.
Ah, tout à fait, je le vis. Il y a certains projets où c'était possible de se rémunérer à peu près pour le travail de composition, par exemple sur ce projet Identita Revisited. C'était une coproduction aussi entre le Festival à Altitude et les Chandolles d'Yverdon qui a été généreuse et du coup j'ai pu me rémunérer pour d'autres choses que juste le jeu. Donc oui, je vis la plupart du temps ces situations. Après, on fait ce qu'on aime. Je suis d'accord de dire que c'est pas normal cette situation. Je pense que tout le monde la conscientise, les politiques et tout ça. Il y a grâce à des mouvements aussi à Genève, mais aussi en Suisse romande, on se fédère pour comprendre qu'en fait on a besoin. Notre travail il est très large et je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Du coup.
Et qu'il y avait le plaisir de faire ce que l'on fait.
Il y a aussi ce plaisir énorme qu'on a de partager, et du coup, qui nous donne cette énergie d'accepter en fait cette situation. Mais il faut évidemment pas l'accepter. Je pense que c'est en train de changer, malgré que on vit dans un monde difficile où l'argent pour la culture, il n'est pas forcément toujours évident.
Ouais. C'est pas toujours acquis, en effet. Mm-hmm. Ouais, en effet. On va se quitter en musique avec un titre. Alors justement, extrait de cet album Identita Revisited. Cette fois-ci, vous faites intervenir d'autres musiciennes et musiciens avec vous. Mm-hmm. Celui-ci, c'est La Montagne. Merci beaucoup, Florian Favre. Je rappelle que vous êtes en concert à Saint-Cergue, en France, donc, dans la médiathèque. Ce sera le 7 juin à 11h et cette fois-ci en piano solo.
Exact.
Merci beaucoup. La Montagne Revisitée, c'est Florian Favre que vous écoutez. Il était notre invité. Il se produira, je vous le rappelle, en piano solo à Saint-Sergue en France à 11h le 7 juin dans le cadre du festival transfrontalier Jazz Contrebande. À 17h32 dans Vertigo, que se passe-t-il dans le reste de l'actualité culturelle du monde? Voici.
L'actu culturelle dans Vertigo.
Ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable.
La voix du président français Emmanuel Macron qui fait écho à cette lettre ouverte de quelques 300 écrivains francophones, dont les prix Nobel de littérature Annie Ernaux et Jean-Marie Gustave Le Clézio, publiés hier dans Libération. Eh bien, ce sont aujourd'hui près de 380 écrivains et artistes du Royaume-Uni et d'Irlande, dont Zadie Smith, Ian McEwan, Brian Eno ou encore Erwin Welsh, qui ont appelé à utiliser les mots justes et à qualifier de génocide la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. L'utilisation des termes génocide ou acte de génocide pour décrire ce qui se passe à Gaza n'est plus contesté par les experts juridiques internationaux ni par les organisations de défense des droits humains, écrivent-ils. Les signataires réclament la distribution immédiate et sans restriction de nourriture et d'aide médicale à Gaza par l'ONU ainsi qu'un cessez-le-feu, faute de quoi des sanctions devraient être imposées, estiment-ils. Eux sont parfois assassinés sur scène en plein concert en raison de leurs liens réels ou supposés avec les cartels. Les musiciens mexicains sont la cible de menaces de la part de groupes criminels organisés qui les paient souvent pour composer et interpréter des narco-chansons, narco-corridos, des ballades racontant les exploits des célèbres narco-trafiquants mexicains. Ils sont enlevés aussi, parfois. C'est ce qui est arrivé au groupe Fugitivo, enlevé dans un bar et dont on est depuis sans nouvelles. Leurs proches auraient reçu une demande de rançon.
Nick Derringer!
Musicien discret, le guitariste Rick Derringer est décédé à 77 ans. Il avait joué avec le Gotha du rock américain et au-delà. Steely Dan, Johnny Winter, Todd Rundgren, Ringo Starr, Cyndi Lauper, Kiss, Barbara Streisand, Joe Bonamassa. Il était ami de Warhol et de John Lennon. Il a produit l'une de vos idoles, Raphaël Wolf, Weird Al Yankovic.
Oh, ah oui, carrément, d'accord. Carrément. Oui, il est drôle.
Célèbre à la fin des années 80 pour ses parodies de Michael Jackson.
C'était l'actu culturel de Vertigo, à retrouver sur Play RTS.
Et c'est l'heure du débat cinéma.
La semaine dernière, vous nous aviez vivement conseillé d'aller voir le dernier film de Zouglav Bolovski.
Tout à fait.
Éternité furtive d'un siècle éphémère.
Vous l'avez vu?
C'est formidable. À ce qu'on m'a dit, c'est formidable.
Vertigo.
Silence!
Le débat cinéma.
Moteur!
Je trouve ça tout à fait bouleversifiant.
Ici, on parle des films que l'on a vus. Bonjour Raphaël Wolf.
Bonjour.
Thomas Gerber, bonjour.
Bonjour.
On va donc parler avec vous de deux films. Il n'y a que deux sorties cette semaine.
Ouais.
C'est la disette post-cannoise.
Exactement.
C'est ça.
La personne s'est risquée. Non, en plus, il y a beaucoup eu de sorties décalées. Ouais. Vous vous souvenez, la semaine dernière, avec le film des Frères Dardenne et celui de Cédric Clapiche qui sont sortis jeudi et vendredi. Donc, les salles sont vivement saturées. Alors voilà.
Eh bien, nous allons commencer avec The Phoenician Scheme de Wes Anderson avec Benicio del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson. Entre autres.
Actuellement, les secouristes s'efforcent de récupérer et d'identifier les restes d'Anatole Jaja Korda. Homme d'affaires international, franc-tireur dans les domaines de l'armement et de l'aviation, l'un des hommes les plus riches d'Europe. Il s'agit du sixième accident d'avion officiel de Korda. Il laisse derrière lui 10 enfants, 9 garçons et une religieuse, sa fille Liesel.
Je t'ai nommé unique héritière de ma succession, dont tu pourrais profiter plutôt tôt que tard.
Pourquoi ? Ça fait 6 ans que nous ne nous sommes pas vus.
J'ai mes raisons.
Quelles sont-elles ?
Mes raisons ? Je ne vais pas le dire.
Voilà une bande-annonce tellement bien faite qu'elle nous épargne de pitcher le film. Je crois que je vous aurais compris. Voilà, on est dans les années 50. Jaja Korda a échappé à un énième crash d'avion et il décide de faire de sa fille religieuse sa seule héritière au détriment de ses 9 autres enfants qui sont tous des garçons. Mais ce qu'il n'y a pas dans le trailer, que je vous annonce, c'est que pour arriver à ce faire, là, il doit renégocier des contrats avec des partenaires mondiaux, des manias qui sont pas tous tout à fait d'accord avec lui. Raphaël Wolf, parlez-nous de ce film de Wes Anderson.
Bah voilà, on retrouve quand même toujours le sel de ce cinéma-là. on est évidemment dans une esthétique extrêmement millimétrée, quelque chose toujours où les personnages paraissent un petit peu comme des pantins dans un théâtre de l'absurde, avec vraiment une fantaisie très plus ou moins d'ailleurs selon les films plus ou moins on va dire assez folle. Là,
le
moi je vous avoue
pastel.
Oui. Je vous avoue que j'étais resté un peu à l'écart du précédent film de Wes Anderson, Asteroid City, qui avait tendance à cumuler un peu les couches narratives avec des mises en abîme. Enfin, il y a un moment où je trouve ça trop complexe et la distanciation qui est souvent là dans le cinéma de Wes Anderson m'avait mis un petit peu hors du film. Là, au contraire, j'ai retrouvé le caractère ludique qu'il peut y avoir dans ses meilleurs films. Je pense notamment à La Famille Tenenbaum ou Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel, qui sont mes films préférés de ce cinéaste. Alors, c'est plus simple, c'est pas aussi génial, mais il y a quelque chose qui va se resserrer très rapidement dans ce film-là, qui va se focaliser sur la relation entre ce père qui serait une sorte d'Aristotelasis contemporain, enfin contemporain dans le film, oui, des années 50, et sa fille, qui est très décalée évidemment par rapport à ce qu'elle représente. Et je trouve qu'à ce niveau-là, il y a vraiment une réconciliation, une réunion entre ce père et cette fille que le film va suivre et qui donne lieu vers la fin quand même à des choses que je trouve assez émouvantes, ce qui n'est pas toujours le cas, enfin c'est pas toujours la sensation que je peux avoir par rapport au cinéma de Wes Anderson. Rien que pour ça, j'étais plutôt pris par le récit. Et puis après, c'est d'une vivacité dingue. Enfin, ça commence vraiment dans cet avion. On voit tout d'un coup une explosion, qu'une gerbe de sang. Ça part. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très tintinolesque dans ce film-là, qui va vraiment très vite dans les décors, dans les pays, dans les personnages. Enfin, il y a un moment où on se retrouve un petit peu dans un vertige de scènes où on passe du coq à l'âne. Et puis, je me suis jamais senti perdu quand même là-dedans, parce qu'on est quand même dans ce flux un peu étrange de ce personnage qui est vraiment dans cette entreprise monumentale où il risque son empire pour essayer d'exploiter une région, à la fois la mer et la terre de cette région, et puis de passer son temps à renégocier ses contrats. Évidemment, ces renégociations de contrats font penser à l'heure actuelle à Trump. Évidemment, vous vous doutez bien que c'est complètement fortuit parce que le film a été fait bien avant. Tout ça a été tourné dans les studios de Babelsberg à Berlin, ce qui donne une facture complètement factice, qui est toujours assez délicieux, je trouve, dans le cinéma de Wes Anderson. J'ai plutôt bien aimé. Voilà.
Thomas.
Bah, Raphaël dit qu'il ne s'est pas perdu dans le film, alors j'aimerais bien qu'il me prête sa boussole, parce que moi j'étais complètement paumé, mais à l'écouter je me disais que j'étais la version négative du spectateur qu'est Raphaël face au Wes Anderson, parce que Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom, c'est des films auxquels j'arrive pas à adhérer. Mm-hmm. En revanche, le précédent, Asteroid City, c'est pratiquement le seul film de Wes Anderson, si je mets ces films d'animation entre parenthèses, que j'avais vraiment apprécié. Il y avait quelque chose de beaucoup plus contemplatif, de beaucoup plus lent dans Asteroid City, une espèce d'histoire éthérée qui m'avait charmé, parce que j'avais trouvé qu'il saisissait enfin quelque chose de calme dans lequel je pouvais un peu apprécier me perdre. Alors ici, il y a l'ouverture que vous avez...
Il y a une logique, donc.
Ouais, il y a une logique, tout à fait. Il y a l'ouverture que vous avez évoquée et qui m'y a fait croire quelques instants, parce qu'effectivement, alors, il y a plein de choses que j'aime dans le cinéma de Wes Anderson. Hein. C'est un orfèvre visuel. Tous les plans sont millimétrés et cette ouverture, elle est assez jubilatoire. On est dans cet avion qui est explicitement factice, et tout à coup il y a une explosion avec ce corps qui est coupé en deux. Je me suis dit, ah tiens, il ose quelques outrances auxquelles je n'étais pas habitué dans son cinéma. Et puis ensuite, eh ben, je retrouve cette frénésie qui me fatigue chez lui, et j'ai toujours l'impression d'être très très bête, parce que il y a une intrigue capitalistique sur le cours du rivet qui augmente, qui est au cœur du film. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Ensuite, il y a cette histoire de filiation entre Benicio del Toro, qui est génial, et puis sa fille, qui est une nonne, quelque chose de l'ordre du spirituel qui se joue aussi entre les deux. Sur le papier, j'adhère à ça, mais je n'arrive jamais vraiment à saisir ce qu'il me raconte, parce que toute la construction du film, c'est du marabout bout de ficelle. Mmh. Et il y a un trop-plein, pour moi, qui m'exclut, et qui fait que finalement, je n'arrive même pas à m'amuser avec les éléments pourtant assez simples. Parce
vous lâchez à selle de cheval, c'est ça?
Ben, c'est ça, c'est exactement ça.
Non, mais
je suis toujours en retrait. Il y a un trop-plein, je sais jamais. Il y a tellement de choses à voir dans le cadre que je suis perdu. J'arrive même plus à me concentrer sur l'histoire. Et finalement, j'ai aussi l'impression que, comme les personnages même du film qui ont toujours l'air de ne pas y toucher chez Wes Anderson, parce que ce Benicio del Toro, on essaye d'attenter à sa vie, je sais pas combien de dizaines de fois au sein du film, et il s'en fiche. Donc, il flotte comme ça un peu sur son destin, et moi, je suis toujours aussi un peu comme lui, très en retrait.
Mais il y a quand même des récurrences de scènes qui reviennent, on n'a pas parlé de ça, mais c'est assez amusant de voir tout d'un coup le héros, donc Benicio del Toro, qui, dans des moments un peu fantasmés, voire d'état second, se retrouve au paradis face à Dieu, au prophète et puis à ses trois ex-épouses mortes, dont Charlotte Gainsbourg, comme une sorte de procès divin. Et ces scènes-là, quand même,
c'est tisse, des respirations.
Tisse un fil quand même autour justement de la question de la foi. Alors vous l'avez dit, la famille, l'argent, la foi. Bah quelque part, comme souvent dans ces films, on va pas attendre un discours, un propos, mais il va jongler quand même avec des motifs, thématiques. Et là, je trouve qu'il le fait quand même plutôt bien à l'intérieur, effectivement, de quelque chose qui est très saturé en termes de narration. Mais comme on est proche, en plus, du film d'espionnage, enfin, c'est une comédie d'espionnage, parodie ou quoi, moi, ça m'a pas gêné dans ce film-là.
Je l'ai entendu en interview en venant ici pour l'émission, et il disait à la personne qui l'interviewait que souvent, il conseillait aux gens qui n'aiment pas ces films de les revoir une deuxième fois, quand ils se sont habitués au trop-plein.
Une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une fois que vous l'aurez vu deux fois,
peut-être que vous pourrez vous concentrer sur ce que vous n'avez pas compris. Alors, je sais pas, peut-être que je ne suis pas assez persévérant.
Non, mais il est conscient. Mais ça veut dire que vous avez.
Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et apparemment, c'est des retours qu'on lui fait assez souvent. Ouais. C'est un cinéma qui a tendance à exaspérer à la première vision. J'ai jamais poussé le vice jusqu'à
la deuxième.
Jusqu'à la deuxième, mais on verra.
Tentez le coup. Thomas, tentez le coup. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça pourrait marcher avec vous.
Ça me rappelle un film, ça.
J'ai bien aimé le avec vous.
Oui. The Phoenician Scheme de Wes Anderson, donc avec Benicio del Toro, Tom Hanks et Scarlett Johansson. Entre autres, le casting est assez dément à part ça.
Ils sont tous géniaux. Michael Cera, dont on n'a pas parlé aussi, qui est un acteur que j'adore et qui là est à contre-emploi, est génial.
Mathieu Amalric également, qui joue.
Il faut y aller sans regarder. Bon, maintenant c'est William trop tard, on a tout déplié le casting, mais j'y allais sans savoir qui était dans le film. Et à chaque fois chez Wes Anderson, il y a une brochette d'acteurs qui me surprennent au fil des.
Qui viennent que pour une scène, et voilà, c'est ça qui est bien.
On passe maintenant à un documentaire. Ce documentaire s'appelle The Landscape and the Fury, signé Nicole Fugele. Un peu de l'ambiance sonore de ce film documentaire. On est dans la nuit, des gens marchent éclairés à la seule lueur d'une lampe de poche à travers un sous-bois, et c'est comme ça pendant 2h20. Non, j'exagère. C'est un documentaire de Nicole Fugele qui explore, mais quand même sur 2h20, le parcours de démineurs et de migrants qui arpentent la frontière bosno-croate 30 ans après la fin de la guerre. C'est un essai cinématographique avec des paysages absolument grandioses, mais aussi, bien sûr, les cicatrices de la guerre. C'est une coproduction de la SSR, grand prix au festival de Nyon Vision du Réel en 2024. Thomas Gerber, votre avis sur ce Landscape and the Fury de Nicole Fugele?
Moi, c'est vraiment un très très grand documentaire de cinéma qui m'a subjugué, littéralement. Je pense que Nicole Fugele a parfaitement compris deux choses. Premièrement, elle a très bien compris que le cinéma, surtout quand il essaye de saisir le réel comme elle le fait dans son documentaire, c'est une question de temporalité et d'imprégnation. Et donc, les plans dans le film durent très longtemps. On n'est plus chez Wes Anderson. Ouais.
C'est bien de comparer ces deux films.
C'est les deux seules sorties du jour, voulez-vous.
Ça n'a rien à voir avec Apocalypse Now non plus. Hein.
Mais donc, les plans vont durer très longtemps, mais ce n'est jamais lassant. On ne soupire jamais en disant ouais, c'est bon, on coupe, on passe à la suite. Ouais. Il y a une maîtrise de la caméra et de ce qu'elle nous laisse comprendre qui est, à mon sens, qui tient presque du génie. Au début du film, on ne sait pas encore où on est parce qu'il y a très très peu de dialogue, il n'y a pas de texte qui nous explique le contexte. On voit simplement des gens qui marchent dans la campagne. On devine à peu près qu'il s'agit ici de migrants qui sont filmés de dos, ils portent des affaires. Et tout à coup, donc le plan dure de longues secondes, et tout à coup on a un léger panoramique qui décale l'image sur la droite et se révèle dans le cadre un minaret. Et là, ça dit énormément de choses, parce que le contexte de la Bosnie-Herzégovine, de ces migrants qui viennent, dont on ne sait pas exactement où, mais dont on devine que ça doit être proche de l'Afghanistan, qui arrivent dans un lieu dans lequel on ne veut pas forcément d'eux, ils ont été refoulés de Croatie, et tout à coup ce minaret avec ensuite l'imam qu'on va entendre appeler à la prière à plusieurs reprises dans le film, baigne déjà le film dans une ambiance et surtout nous livre énormément d'informations émotionnelles, psychologiques par rapport à ces personnages, sans du tout avoir à nous les expliquer. On ressent ces choses sans qu'on nous les explique. Et elle fait comme ça avec tout. On a des champs de mines qui sont omniprésents dans l'esprit des personnages, de certains personnages, mais on le comprend par l'image, on le comprend aussi sans discours. Elle montre simplement des démineurs. Au détour d'une réplique, on comprend que c'est une préoccupation pour des gens qui marchent avec leur famille, et c'est tout. Et la deuxième chose que Nicole Fugele a très bien compris, donc premièrement, c'est que le cinéma est une question de temporalité, et la deuxième chose pour moi, c'est qu'elle comprend parfaitement que si on veut comprendre ce qu'est un être humain, ben on ne peut pas le décorréler de son environnement et on ne peut pas le décorréler des éléments. Et donc, à plusieurs reprises, elle va filmer simplement la forêt brumeuse pendant très longtemps. Un décor qui encercle ces personnages et qui forcément les imprègne. On a aussi des plans sur la rivière qui coule, sur des déchets laissés peut-être sur la route des migrants. Et tout ça nous raconte énormément de choses en nous les faisant ressentir simplement. Et c'est pour moi le principe même du cinéma, sans avoir à faire de discours sur un thème comme celui de l'immigration et des migrants, qui m'a vraiment bouleversé. Il y a une idée que j'ai pratiquement, je crois, jamais vue dans un film qui parle du parcours des migrants, ce qui survient vers la fin du film. Quand on commence enfin à s'attacher à des personnages, puisqu'elle les brosse vraiment très tardivement dans le film. Et là, tout à coup, elle s'intéresse à la figure de la personne qui est restée sur place et qui a accueilli un temps en Bosnie-Herzégovine une famille qui ne faisait que de passer par là. Et elle filme l'émotion de cette personne qui entre en contact avec ces migrants qui sont maintenant en Angleterre et qui ont une vie apparemment qui les épanouit. Et cette personne fond en larmes sans qu'on comprenne pourquoi. J'ai trouvé ça absolument déchirant parce qu'on s'occupe ici, la caméra s'intéresse et se focalise sur celui qui reste, qu'on ne filme pratiquement normalement jamais.
The Landscape and the Fury, Raphaël.
Oui, alors je vous rejoins, j'aurais pas grand chose à ajouter là-dessus. Alors peut-être que j'ai un petit peu plus de problèmes que vous à disons rentrer dans le film dans sa première demi-heure, parce qu'effectivement, disons, l'accès à ce que nous voyons est quand même relativement diffusé de façon extrêmement lente. Donc on peut se sentir un peu perdu, on se dit mais on est où, qu'est-ce qu'on nous raconte? Et puis quand petit à petit, pierre par pierre, on comprend aussi qu'est-ce que le film met en place, effectivement c'est assez prodigieux. Moi j'ai beaucoup aimé justement cette présence, cette omniprésence de la nature, mais comme une présence immuable, une nature assez sauvage qui semble effectivement regarder cette humanité qui soit ne fait que passer, ou soit qui est assez absurde avec ses traces et cicatrices. On voit un tank abandonné comme ça dans la forêt. Enfin, il y a quelque chose de vraiment assez, presque à la lisière du surréalisme. Enfin, alors qu'on sait très bien qu'évidemment c'est tout à fait réel, mais vraiment ces reliques comme ça d'une guerre passée. Elle a pas besoin de les filmer en reconsidérant quoi que ce soit. On est assez proche, on peut être assez proche à ce niveau-là du geste de Lanzmann dans Shoah, toute proportion gardée. Mais on ne peut que filmer ici et maintenant quelque chose qui va nous donner l'impression des cicatrices qui sont encore absolument pas renfermées. Alors évidemment, le fait de suivre des migrants, des personnes qui sont chassées de chez eux à cause de leur origine, renvoie évidemment aux origines de la guerre. On n'a pas besoin de souligner ça, c'est juste présent, c'est là. Et puis moi, il y a quand même des scènes qui sont que je trouve assez fortes, où on est souvent dans une école abandonnée, puis à côté, on voit des cours, des salles, enfin des cours prodigués à des jeunes enfants, puis on voit quand même que les chansons qu'on leur apprend sont un peu nationalistes sur les bords. On voit deux vieux combattants qui parlent vraiment de ce qu'ils ont vécu il y a 30 ans et expliquent, alors là, on n'est pas chez Wes Anderson, comment à côté d'eux, ils ont vu des corps mais éparpillés à cause d'obus, enfin vraiment...
Se demandent quelle aurait été l'issue, ou même le début de la guerre, si les réseaux sociaux avaient existé le début des années 90. Ouais. Superbe discussion entre les deux.
Et c'est très fin, parce que voilà, tout d'un coup, juste de voir l'espace d'une scène, des fermiers, cette enseignante, ces vieux combattants, les migrants, on a quand même une mosaïque de gens qui se côtoient ou pas, qui se frôlent ou pas, et qui renvoient toujours de façon totalement assidue, enfin de façon souterraine, à ce passé qui imprègne tout le film du début jusqu'à la fin sans avoir besoin de l'expliciter, et ça je trouve quand même assez fort.
Avec une force esthétique presque aussi grande que celle de Tarkovsky.
Et vous avez entendu dans la bande-là, c'est incroyable la présence du son dans ce film.
Le titre du film est parfaitement trouvé. Hein. Le paysage et la fureur collent parfaitement à ce qu'on contemple pendant plus de deux heures.
Et vous le verrez, donc ce titre en anglais sur les affiches de vos cinémas favoris, The Landscape and the Fury, signé Nicole Feugelet, Grand Prix au Festival de Nyon Vision du Réel en 2024. On passe maintenant à vos conseils et on commence avec vous, Raphaël. Vous nous conseillez My Own Private Idaho de Gus Van Sant.
Always know where I am by the way the road looks. Like I just know that I've been here before. I just know that I've been stuck here.
The cattle are proud. Mike? The coyotes are howling. I'm extremely excited.
Don't worry. Everything's gonna be all right.
My Own Private Idaho de Gus Van Sant avec River Phoenix, Keanu Reeves. L'histoire, la voici. Mike est homosexuel et souffre de narcolepsie. Il est passionnément amoureux de son ami Scott, fils du maire de Portland dans l'Oregon, qui lui est hétérosexuel et pour tous deux sont toxicomanes et contraints de se prostituer pour survivre. Bref, il mène une vie marginale. C'est votre conseil, Raphaël, c'est à voir à la Cinémathèque Suisse dans le cadre d'un cycle consacré au cinéma queer.
Bah, c'est mon film préféré de Gus Van Sant, je vous le dis franchement. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, parce que déjà vous allez découvrir probablement River Phoenix et Keanu Reeves qui sont donc qui jouent Mike et Scott dans une de leurs performances les plus mémorables. Le film est à cheval comme ça entre la rêverie, la narcolepsie évidemment du héros Ed. On ne sait pas très bien à certains moments si on est dans un rêve ou dans une réalité. On est dans une forme d'Americana absolument incroyable et à la fois dans les bas-fonds d'une marginalité de SDF. On a une communauté comme ça de jeunes qui se retrouvent autour d'une figure de vieux ogre qui ressemble un peu à un héros shakespearien. D'ailleurs, Gus Van Sant dit qu'il s'est librement inspiré de Henri IV ou d'Henri V. Il y a vraiment une collision comme ça de motifs qui font un peu peur au début quand on connaît pas très bien le film et qui se mélangent avec une homogénéité absolument incroyable. C'est une très belle histoire d'amour à sens unique, évidemment. C'est l'histoire d'une quête aussi des origines, puisque ce personnage, donc Mike, essaie de retrouver sa mère disparue. Tout ça métaphorisé par une image de saumon qui remonte le fleuve. Enfin, c'est la beauté pure d'un cinéma poétique et à la fois incarné. Enfin, vraiment, on est dans un élan comme ça qui vous emporte très très loin. Et puis, l'Amérique, comme ça, je le rappelle, qu'on voit quasiment jamais de ses bas-côtés, que je trouve assez rare et qui, encore aujourd'hui, 30 ans, même plus de 30 ans après sa sortie, vaut encore largement le détour. C'était le troisième long métrage d'ailleurs de Gus Van Sant après Malanoche et puis Drugstore Cowboy, qui est un film que j'aime beaucoup aussi. Mais là, on est vraiment dans la quintessence de pour la première moitié de sa carrière avant ses films plus expérimentaux comme Jerry. Voilà, j'adore ce film.
My Own Private Idaho, ça existe en DVD, en Blu-ray et c'est à voir à la Cinémathèque Suisse à Lausanne. Votre choix à vous, Thomas, c'est ce film titré Oslo, 31 août.
Se på livet mitt, da. Jeg 34 år, og jeg har ingenting. Jeg orker bare ikke å begynne her på nytt igjen.
Jesus, han prøver å fortelle deg noe personlig, liksom. Og så svarer han med litteraturvitenskap.
Du har familie som backer deg, du har venner, du er en smart fyr. Kom igjen, liksom.
J'ai 34 ans, je sais pas quoi faire de ma vie. Bref, tout va mal pour le héros du film de Joachim Trier, Oslo, 31 août. Il s'appelle Anders, il arrive au bout de sa gure de désintoxication. Il est autorisé à sortir pour passer un entretien d'embauche et il va en profiter pour aller visiter quelques vieilles connaissances. C'est inspiré du Feu follet de Pierre Drieu La Rochelle, livre publié en 1931, déjà adapté au cinéma par Louis Malle en 1963. C'est votre conseil, Thomas Gerber.
Et quelle première adaptation par Louis Malle, qui signait un chef-d'œuvre avec Maurice René, qui
est
un film que j'adore vraiment, qui explorait, qui dressait un peu le portrait d'une bourgeoisie parisienne, qui dégoûtait ce personnage qui avait envie d'en finir. Et donc le défi était vraiment très très relevé pour Joachim Trier de passer après Louis Malle et après ce chef-d'œuvre. C'est un livre qui, moi, me bouleverse déjà premièrement parce qu'il raconte les dernières heures d'un homme qui a décidé d'en finir. Le Louis Malle me bouleverse et Joachim Trier me bouleverse aussi avec cette version adaptée très subtilement à la sauce du 21e siècle en saisissant un jeune typique de cette jeunesse, comme vous le disiez, du 21e siècle, un peu en mal d'existence, atteint d'une mélancolie qui flotte un peu sur tout ce qui l'entoure et qui va simplement, sans vraiment l'expliciter, dire au revoir aux personnes qu'il apprécie, à ses amis, à ses compagnes. Et il y a quelque chose qui relève de la grâce pour moi dans le geste de cinéma de Joachim Trier, dans sa manière de saisir ce désespoir et cette mélancolie uniquement dans le regard de son personnage. Je n'ai plus vu le film depuis sa sortie, et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que Joachim Trier a reçu le Grand Prix à Cannes avec son nouveau film qui s'appelle Valeurs sentimentales, que je n'ai pas encore vu, mais si j'en crois Raphaël, il paraît que c'est très bien, et j'ai foi en Joachim Trier.
Mais donc ayant foi en moi
et en Raphaël.
mais surtout en Joachim Trier. Mais donc je ne l'ai plus revu. Et pourtant, ça fait donc plus de 10 ans que j'ai vu ce film, et il m'en reste vraiment, il m'a imprégné, il y a une trace indélébile qui est restée en moi d'une grande tristesse, mais d'une tristesse qui n'est pas du tout sadique, qui n'est pas du tout complaisante, mais d'une tristesse qui je pense peut nous atteindre tous simplement dans cette manière qu'a ce personnage de flotter au-dessus d'un monde qu'il ne comprend plus. Et pour nous, spectateurs, il y a quelque chose de déchirant. Quand on connaît son sort, de le voir prendre de plus en plus de distance avec ce qui l'entoure. C'est un film qui m'avait terrassé et que je vous conseille, puisque comme moi, vous attendez tous de voir Valeur sentimentale de Joachim Trier. Pour passer le temps, regardez Oslo 31 août.
Passer le temps.
Oslo 31 août, sorti en 2011 de Joachim Trier, à voir donc en Blu-ray et sur certaines plateformes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Thomas, merci Raphaël. On va se quitter avec le coup de cœur de notre programmateur Bastien Arnold. Voici Journal d'un loup-garou.
Et si tu plonges au fond de mon regard, tu pourras voir de qui est la chanson.
Peut-être qu'il vaut être mieux, il vaut mieux être seul dans les bois avec un loup-garou en ce moment que sur les routes à les savoir. C'était Lou, Adrian, Cassidy, coup de cœur de notre programmateur Bastien Arnold. L'inforoute.
Infotrafic RTS.
On ralentit beaucoup sur les autoroutes à 12 et à 9 en direction du Valais, des Châtel-Saint-Denis et Chèbre jusqu'au tunnel de Glion, sur la une Lausanne-Genève entre Villars-Sainte-Croix et Saint-Pré en direction de Genève, entre Villars-Sainte-Croix et Chavornay en direction d'Yverdon également, suite à un accident sur le contournement de Genève, sur la Transjurane, sur la 9 Lausanne-Valor entre les Clés et la Donne en direction de la frontière. On attend également 1h15 en direction du Tessin à l'approche du tunnel et à l'approche du Gothard également. Et puis pour d'autres possibilités, ça vient de changer, pardon, les autres possibilités pour gagner, on peut gagner le sud des Alpes par le Grand Saint-Bernard ou le col du Simplon. C'est moins embouteillé, voilà, je vais y arriver.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS. L'heure avec RTS Première.
Il est 18h, c'est l'heure de retrouver Forum. Bonne soirée, à demain.